Job Radio présente Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.
Selon la dernière étude d'OpinionWay pour Indeed, 87% des chercheurs d'emploi et 85% des recruteurs estiment que l'instabilité décourage les entreprises de recruter. Bonjour à tous, bienvenue dans Job News by Indeed, c'est le podcast qui décrypte chaque mois l'actualité de l'emploi. L'instabilité politique et ses répercussions sur le marché du travail, voilà pour le thème de ce nouvel épisode. Le climat professionnel se tend, les perspectives d'embauche sont plutôt floues, c'est le moins qu'on puisse dire. Les inégalités, elles, continuent pendant ce temps-là de s'accentuer. Alors comment les entreprises et les candidats s'adaptent-ils face à cette situation? Pour en parler à mes côtés, Eric Gras. Salut Eric.
Bonjour Jean-Baptiste.
Comment tu vas? Bien.
Super bien, bientôt les fêtes, tout va bien.
Ouais, c'est super, c'est un chouette moment, il faut en profiter. Eric, je rappelle que tu es expert du marché de l'emploi chez Indeed depuis un an. La France a connu 4 gouvernements successifs, un climat institutionnel tendu, des révisions à la baisse, des perspectives de croissance et un taux de chômage qui stagne à 7,5%. Tout cela renforce un sentiment d'incertitude généralisée. OpinionWay et Indeed ont publié une étude complète sur l'impact justement de cette instabilité politique. Première question peut-être, elle est basique, mais pour quelle raison cette étude ?
Parce que.
Merci Eric, à bientôt.
Non, mais parce que l'instabilité politique, elle dure depuis plusieurs mois. Il est compliqué de savoir quand et comment elle se terminera, clairement. Donc on a souhaité mener cette étude pour comprendre comment elle est vécue et perçue au quotidien par les recruteurs et par les candidats. Donc on a pu identifier les conséquences concrètes qu'elle peut avoir sur le recrutement, les attentes professionnelles de chacun, les conditions de travail, mais aussi les solutions envisagées pour y faire face.
Alors, dans quelle proportion, finalement, les chercheurs d'emploi et les recruteurs estiment que le climat d'entreprise s'est quand même bien dégradé ?
Justement, selon les résultats de l'étude, 83% des candidats et 81% des recruteurs, donc c'est assez rare, mais les deux sont en phase, estiment que le climat s'est dégradé en entreprise. Et quelques arguments principaux en ressortent, à savoir un sentiment d'injustice et de sacrifice des salariés face aux mesures budgétaires pour 91% d'entre eux, une perception que les entreprises se servent du contexte pour refuser les demandes de leurs équipes à 88%, c'est la crise, va pas me demander plus, une incertitude sur l'embauche, jusqu'à 90%, et sur les salaires jusqu'à 90% également, qui brouille les perspectives et alimente les tensions en interne. Et le troisième point, c'est une difficulté à se projeter. 65% des candidats disent qu'ils devient difficile de se projeter à long terme. 63% ne se sentent pas confiants pour leur avenir professionnel.
Et est-ce qu'on arrive à expliquer facilement chez Indeed cette dégradation ?
Ce que montre l'étude, c'est qu'au-delà des indicateurs économiques, l'instabilité politique agit comme un facteur d'incertitude supplémentaire dans un contexte qui est déjà tendu au niveau géopolitique, macroéconomique. Et donc, lorsque les règles du jeu semblent évoluer en permanence, les entreprises, comme les salariés, ont du mal à se projeter. C'est les sables mouvants, c'est l'instabilité permanente. Donc, pour les recruteurs, ça se traduit par une pression accrue sur les coûts, une prudence plus forte dans les décisions d'embauche et parfois des arbitrages difficiles à expliquer en interne. Pour les candidats, cette même incertitude se transforme en inquiétude sur la pérennité des postes, l'évolution salariale, les perspectives de carrière. Or, l'emploi repose beaucoup sur la confiance.
Évidemment.
Voilà. Donc, quand elle s'érode, les tensions montent. Les salariés ont l'impression d'être les premiers impactés par les restrictions. Les entreprises, elles peinent à rassurer. Et notre étude, elle illustre aussi bien ce cercle vicieux. Plus l'environnement politique est instable, plus le climat social, décidément.
T'inquiète, tout va bien.
Plus le climat social se fragilise. Et donc, chez Indeed, on observe que cette situation, elle renforce le besoin de transparence, de communication et de lisibilité dans les organisations. Les recruteurs, comme les candidats, recherchent aujourd'hui de la clarté, même si c'est pas clair, il faut dire... C'est pas clair. Si on n'a pas de vision claire, il faut dire un minimum de choses et apporter des garanties. C'est un point sur lequel les employeurs peuvent réellement agir, même dans un contexte national et international incertain.
Alors, il y a 87% des candidats et 85% des recruteurs qui pensent que l'instabilité décourage justement à recruter. 90% estiment que les perspectives d'embauche sont plus incertaines. Qu'est-ce que ça signifie tout ça très concrètement, même si on voit bien ?
Oui, concrètement, ça signifie que l'instabilité politique, elle crée un climat d'attentisme généralisé. Donc les entreprises, elles hésitent davantage avant d'ouvrir un poste. Elles repoussent certaines embauches, elles se donnent plus de temps pour décider. Elles veulent s'assurer qu'elles auront la visibilité nécessaire pour assumer un recrutement sur la durée, ce qui ralentit mécaniquement le processus. Donc, elles recrutent plus dans l'urgence absolue, elles sont beaucoup moins dans l'anticipation. Côté candidat, cette prudence accrue, elle se traduit par des processus plus longs, des recours plus tardifs, des retours parfois encore moins clairs aussi que par le passé. Parfois l'impression que les postes disparaissent aussi en cours de route. Mmh. Et cette incertitude, ça affecte leur motivation, leur confiance, leur capacité à se projeter dans une nouvelle opportunité. Donc ils postulent moins.
Logique. Il y a une autre conséquence peut-être aussi sur le marché qui devient peut-être un peu plus volatile.
Ouais, l'autre conséquence, c'est que le marché devient plus volatile. Les recruteurs doivent composer avec des budgets qui peuvent évoluer très rapidement. Les talents, eux, s'interrogent davantage sur la stabilité des entreprises qu'ils envisagent de rejoindre. Donc, ils se renseignent encore plus sur leur marque employeur et leur santé financière. En résumé, ces chiffres montrent que l'instabilité, elle se limite pas à une perception. Elle a un impact très opérationnel sur le recrutement. Elle ralentit les décisions, complique la planification RH et crée un stress supplémentaire pour les candidats comme pour les équipes RH. C'est un signe clair qu'il faut restaurer de la confiance, de la prévisibilité et de la transparence dans le processus d'embauche.
Bon, ils sont combien à estimer, Eric, que cette instabilité finalement va aussi quelque part avoir une répercussion et menacer les salaires ?
L'inquiétude, elle est bien réelle car l'étude, elle montre que 90% des candidats et 85% des recruteurs voient l'instabilité comme une menace pour le niveau des salaires en France.
Et justement, est-ce que cette instabilité, justement, elle décourage les entreprises à augmenter les salaires des collaborateurs ?
Totalement oui. Les résultats de l'étude sont très clairs. 89% des candidats et 85% des recruteurs estiment que l'instabilité politique freine les augmentations salariales.
Il n'y a pas débat, oui.
Ouais, concrètement, quand les entreprises manquent de visibilité sur leurs coûts, sur l'évolution de l'activité, elles ont tendance à reporter les décisions qui engagent durablement leur budget, comme les revalorisations de salaire. Et donc, c'est pas forcément par manque de volonté, mais plutôt par prudence dans un contexte où les règles économiques peuvent évoluer très rapidement. Mmh. Pour les salariés, cela renforce le sentiment d'injustice et de tension déjà mis en lumière dans l'étude. Donc, ils voient leurs dépenses augmenter, mais les perspectives de revalorisation qui stagnent. Et donc, pour les recruteurs, c'est également un défi. Car la capacité à attirer et à retenir les talents dépend aussi en grande partie de la compétitivité salariale. Ces chiffres montrent donc un blocage important. Tant que l'environnement reste instable, les entreprises privilégient la sécurité budgétaire au détriment de l'investissement dans les rémunérations, avec des effets directs sur l'attractivité et sur le climat interne.
Et justement, est-ce que les entreprises ont déjà commencé à geler les salaires ?
Oui. Et c'est l'un des enseignements les plus significatifs de l'étude. Pour 23% des recruteurs interrogés, le gel des salaires est déjà une réalité. Leur entreprise a pris cette décision en raison du contexte d'instabilité. Ouais. Mais l'inquiétude va au-delà de ces situations déjà actées. Près de 3/4 des recruteurs estiment que leur entreprise pourrait décider de geler les salaires dans les mois à venir. Donc ça traduit un niveau de tension budgétaire élevé, une réelle difficulté à se projeter sur les politiques de rémunération. Et c'est pas uniquement un signal économique, c'est aussi un enjeu social majeur. Le gel des salaires pèse directement sur la motivation, la fidélisation, la capacité à attirer des nouveaux talents. Ça renforce le besoin pour les entreprises de redoubler de transparence et de communication afin de préserver la confiance dans un moment où les marges de manœuvre sont particulièrement contraintes.
Et est-ce que les salariés jugent les perspectives d'évolution et de promotion plus compliquées du fait, là aussi, de cette instabilité ?
Oui, 86% des candidats, 77% des recruteurs considèrent que l'instabilité politique rend les perspectives de promotion et d'évolution clairement plus difficiles. Les entreprises, face à ce contexte incertain, ont tendance à ralentir leurs plans internes, à repousser certaines décisions liées à la mobilité, aux formations. Pour les salariés, ça se traduit par un sentiment que leur carrière, elle va stagner et que les opportunités, elles se feront plus rares, voire elles seront inexistantes. Et donc, ça accentue le besoin de transparence et de communication de la part des employeurs.
Alors, l'enquête, elle révèle aussi que pour 65% des personnes sondées, il devient difficile de se projeter à long terme, surtout chez les moins de 35 ans. Ils sont 73% dans ce cas-là. Comment est-ce qu'on explique finalement cette incapacité, cette difficulté à aller de l'avant en se projetant ?
Tout simplement parce que l'horizon se brouille. Hein, quand on conduit par temps clair ou par brouillard, on conduit logiquement pas à la même vitesse. Et donc, on a en effet 65% des personnes interrogées qui disent qu'il devient difficile de se projeter. Cette proportion, elle monte à 73% chez les moins de 35 ans. Seuls 36% des candidats se déclarent confiants pour leur avenir professionnel, donc quasiment un tiers. L'incertitude, elle concerne à la fois l'embauche, les salaires, les promotions. Dans ce contexte d'instabilité politique et économique, planifier sa carrière ou prendre des décisions personnelles devient beaucoup plus risqué, notamment chez les jeunes actifs qui, en début de parcours, ressentent particulièrement cette difficulté à envisager l'avenir sereinement.
Bon, c'est qui les populations les plus fragilisées du fait de cette situation d'instabilité ?
Bah, on vient un peu de le dire, mais c'est toujours les mêmes. Principalement les jeunes qui sont les plus impactés. Viennent ensuite les seniors, les travailleurs en contrat précaire comme les CDD ou les intérimaires. Mais d'autres populations sont également touchées, notamment les chômeurs, les personnes peu qualifiées. Cette hiérarchie montre que l'instabilité politique affecte surtout les profils les plus vulnérables sur le marché du travail, ceux pour qui la sécurité de l'emploi et la projection professionnelle sont déjà plus fragiles.
Et bon, même si j'ai évidemment une idée sur la réponse, mais les raisons principales pour lesquelles ces catégories apparaissent en premier ?
Bah, ça s'explique par le fait qu'ils ont moins de marge de manœuvre, ils sont moins en position de force, et donc ils subissent plus directement les à-coups, à commencer par l'âge, hein, qui est un facteur déterminant. On a soit une catégorie de candidats qui arrivent tout juste sur le marché de l'emploi et qui a besoin de faire ses preuves, soit ceux qui sont en fin de carrière et qui ont déjà un certain nombre de discriminations et qui ont aussi moins d'opportunités. Donc eux sont les plus exposés au gel des embauches et aux réorganisations. Viennent ensuite ceux avec un statut précaire, hein, et ceux qui sont au chômage. C'est les premiers arbitres en période d'incertitude, les contrats courts, les reports, priorisation interne. Et puis enfin, les moins qualifiés, donc ceux qui ont une plus grande sensibilité aux baisses d'offres et aux exigences revues par rapport aux compétences techniques et aux diplômes.
Alors, on a plusieurs fois eu l'occasion dans Job News by Indeed de souligner l'impact du télétravail. Le télétravail a transformé les relations internes. Est-ce que cette distance accentue les effets de cette instabilité politique sur le moral, justement, des troupes, des équipes ?
Bah oui, quand ça va pas bien, on a besoin de se voir, hein. On a besoin de se réconforter. Donc oui, le télétravail a profondément transformé les relations internes et cette distance, elle peut amplifier le ressenti d'instabilité. Donc les échanges informels, les signaux de confiance, le soutien au quotidien sont moins présents, ce qui rend plus difficile la circulation d'informations, la perception et la sécurité de l'entreprise, parce qu'il y a des choses qu'on se dit et des choses qu'on ressent, d'où le besoin impératif parfois d'être ensemble physiquement. Et dans ce contexte, les incertitudes liées à l'embauche, au salaire, aux perspectives d'évolution se ressentent plus fortement, car les collaborateurs disposent de moins de repères, moins de feedback direct. Donc en résumé, la distance physique, elle accentue la fragilité du moral, renforce le besoin de communication claire et régulière de la part des managers.
Alors, je ne sais pas s'il y a une relation directe avec l'instabilité politique du moment, mais certaines entreprises, notamment celles comprises entre 20 et 249 salariés, déclarent un risque accru de fermeture. Elles sont 41%. Quels secteurs ou types d'entreprises sont aujourd'hui les plus vulnérables ?
Les données montrent que ce sont surtout les entreprises de taille intermédiaire et les PME qui se sentent les plus exposées. Donc parmi les PME de 20 à 250 salariés, 249 pour être précis, t'as raison, 41% déclarent donc un risque accru de fermeture et ce chiffre monte à 46% pour les ETI, donc les entreprises de la catégorie juste au-dessus de 250 à 999 salariés. Les grandes entreprises, elles, semblent un peu mieux protégées avec seulement, entre guillemets, même si c'est beaucoup, 17% qui perçoivent un tel risque. Donc en termes de secteurs également, ce sont les entreprises du commerce, tourisme, hôtellerie, restauration qui apparaissent les plus vulnérables, 33%. L'industrie, le BTP, les services sont un peu plus résilients, avec environ 28% des entreprises concernées, ce qui reste beaucoup. Et donc, ça illustre que la taille et le secteur sont des facteurs déterminants dans la capacité à résister à l'instabilité économique et politique.
Alors, par rapport à cette situation des plus inconfortables, on va dire, est-ce que les entreprises arrivent finalement à s'adapter au niveau de leur recrutement ? Et si oui, comment elles y parviennent ?
L'instabilité politique n'apporte pas que du négatif, elle permet aux entreprises de revoir leur façon de recruter. On constate trois grandes choses. Premièrement, un assouplissement des critères à hauteur de 67%, avec en tête des exigences allégées en termes d'expérience, compétences, diplômes et mobilité. Donc ce qui est assez paradoxal, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a moins de recrutement sur le long terme et quand il faut recruter, c'est qu'on n'a vraiment plus le choix, ça devient extrêmement urgent. Donc on va s'accorder à plus de souplesse sur certains critères. La deuxième chose, c'est une prudence sur les volumes. Les entreprises ont surtout recours à des contrats courts ou optent pour un gel, un report des recrutements. Elles sont déjà 29% à le faire. Et le troisième point, c'est un horizon de planification revu. On le disait tout à l'heure, elles privilégient essentiellement le recrutement à court-moyen terme. Pour autant, elles ont quand même une vision à moyen et long terme, notamment par rapport au départ d'effectifs. Et donc, il faut jongler entre cette urgence court-termiste et un minimum quand même de visibilité, de prévision à moyen et à long terme.
On a parlé de la réaction des entreprises face à
Ah, décidément.
On a parlé de la réaction des entreprises face à cette instabilité, mais de leur côté, comment réagissent les candidats ?
Les candidats adoptent avant tout une posture de sécurisation de leur parcours. Donc beaucoup envisagent de changer de secteur, de reprendre une formation, d'accepter un poste en dessous de leur qualification ou même de partir à l'étranger. Pour certains, ces options restent des projets potentiels, mais pour d'autres, elles sont déjà concrètes. 23% des candidats ont déjà changé de secteur d'activité, 15% ont repris une formation et 17% ont accepté un poste inférieur à leur qualification. Donc ça montre que l'instabilité politique, elle affecte pas seulement le moral des salariés, elle influence aussi leurs décisions professionnelles, leur capacité à planifier l'avenir.
On a déjà parlé dans un précédent épisode du career cushioning, qui désigne le fait pour un salarié de justement sécuriser discrètement son avenir professionnel en prenant des mesures anticipées au cas où son emploi deviendrait justement instable. Est-ce qu'on est entré dans une phase de career cushioning massif ?
Ah bah clairement oui, hein. Les comportements observés dans l'étude sont typiques du career cushioning, c'est-à-dire la sécurisation discrète de son avenir professionnel face à l'incertitude. Donc les candidats envisagent de changer de secteur. On avait vu la même chose juste au moment du Covid, mais du coup il y a de la prudence. Donc avant de reprendre une formation, d'accepter des postes inférieurs ou de partir à l'étranger, on fait attention. Donc ça se traduit clairement par le fait que nous sommes entrés dans une phase de career cushioning massive. Donc on fait très attention, on est en veille, on regarde, mais les salariés anticipent et se préparent à d'éventuelles perturbations de leur parcours professionnel.
Et avec ce climat-là dégradé, la difficulté qu'il y a aussi, tu l'as dit tout à l'heure, à se projeter, est-ce que chez Indeed, vous observez un risque accru aussi, carrément, de désengagement des salariés ?
On n'a pas mesuré directement le désengagement qui pourrait découler de l'instabilité politique, mais quelques signaux sont là. Le climat dégradé pour 83% des candidats, 80% des recruteurs, je le rappelle, une confiance en berne, ou encore des perspectives brouillées, qu'il s'agisse d'embauche, de salaire ou d'évolution, ces facteurs fragilisent le moral de tous et ils peuvent nourrir à terme le désengagement des collaborateurs.
Tu en as parlé rapidement tout à l'heure, des personnes qui anticipent et qui vont changer de secteur, vont reprendre des formations. Est-ce que les dispositifs actuels sont réellement adaptés justement à cette période d'instabilité ?
Il y a un paradoxe, mais 77% des candidats souhaitent se former pour s'adapter à l'incertitude, alors que 76% des recruteurs prévoient de réduire l'offre ou les budgets formation. Donc c'est dans ces périodes d'incertitude où justement, pour travailler l'engagement, la motivation, il faut investir massivement dans la formation. 25% l'ont déjà fait, donc c'est plutôt une bonne chose. Le besoin de compétences, il augmente. L'accès à la formation, il risque de se restreindre dans un contexte d'instabilité où cette tension entre demande et offre, elle n'est pas idéale. Donc la formation, elle reste un levier clé pour sécuriser les parcours professionnels, maintenir l'engagement des collaborateurs.
Alors ce sera la dernière question, c'est peut-être pas forcément la plus simple d'ailleurs, mais dans ce climat-là, est-ce qu'il y a malgré tout quelques pistes qui pourraient redonner un petit peu de visibilité au marché du travail ?
Oui, alors à partir des enseignements de cette étude, plusieurs mesures pourraient contribuer à restaurer de la clarté et de la confiance sur le marché du travail. Il y a 6 points. Donc le premier, c'est la planification RH à long terme. Je disais tout à l'heure, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais au-delà de 12 mois, alors qu'aujourd'hui, seulement 11% des entreprises planifient sur le long terme. Donc il y a quand même la possibilité d'avoir une vision long terme avec peut-être 2-3 chemins qui peuvent varier en fonction de l'évolution économique. Donc ça, c'est très très important pour l'interne et pour l'externe. Le deuxième point, c'est de préserver les budgets formation plutôt que de les réduire. On en a parlé tout à l'heure, donc très important pour maintenir l'engagement, mais ça aide aussi à l'attractivité à l'externe à travers la marque employeur. Une entreprise qui forme est toujours plus attractive qu'une entreprise qui n'investit pas dans ses collaborateurs. Le troisième point, c'est communiquer en transparence, donc sur les calendriers d'embauche, les critères, les trajectoires de rémunération, pour réduire l'incertitude ressentie sur les postes, les salaires et les promotions. Là aussi, ça fait travailler à la fois l'engagement et l'attractivité à l'externe. Le quatrième point, c'est assouplir raisonnablement les critères de recrutement, donc c'est déjà le cas pour 67% des entreprises, et valoriser davantage les compétences et le potentiel pour fluidifier les recrutements. Le cinquième point, c'est sécuriser les populations fragiles, notamment les jeunes, les seniors et les travailleurs précaires dont on a parlé tout à l'heure, via des parcours dédiés, des passerelles, du coaching, en cohérence avec les profils identifiés comme étant vulnérables. Et enfin, le sixième point, c'est limiter les gels salariaux généraux au profit d'arbitrages ciblés sur les postes critiques ou les métiers en tension afin de préserver le climat social et l'innovation de ces entreprises. Donc ces pistes, elles montrent que même dans un contexte difficile d'instabilité politique, il est possible d'agir concrètement pour redonner de la visibilité et confiance aux salariés comme aux recruteurs.
Un grand merci à toi Eric pour cet éclairage.
Merci Jean-Baptiste, merci à tous.
Merci de nous avoir suivis, c'était Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi tous les mois. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Laissez une note aussi sur la plateforme de votre choix, c'est bon pour les algorithmes, ça fait du bien par où ça passe. Excellente fête de fin d'année.
Bonne fête à tous.
Ciao, ciao, salut, à très vite.
Job Radio vous a présenté Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.